Et ce matin, Marie-Pierre, on parle des jeunes et de leurs rêves, et notamment de ceux des jeunes Palestiniens. À quoi rêvent-ils encore?
De vivre avec tout le monde dans le respect des droits de chacun. À Massafer Yatta, en Cisjordanie, on voit beaucoup d'Israéliens qui viennent nous soutenir, nous aider face aux colons et qui refusent les actes de leur gouvernement. C'est la preuve qu'on peut vivre tous ensemble. Voilà le rêve d'Ali, un jeune homme de 26 ans qui se forme au journalisme. Mais quand on l'interroge sur la solution à deux États, le jeune homme se braque. « Je n'aime pas parler politique. La politique nie nos droits. » Ce lundi dans la Croix, alors que la France et d'autres pays s'apprêtaient à reconnaître l'État de Palestine, entre doutes, désillusions et désirs d'émigrer, de jeunes Palestiniens confiaient ce qui les traverse à Cécile Lemoine, correspondante du journal à Jérusalem. Pour Ahmad, jeune homme de 28 ans, très critique vis-à-vis de son peuple, les Palestiniens vivent tellement au jour le jour qu'ils en ont oublié leur vision, leur projet. Nous sommes trop occupés à survivre et à consommer pour produire des leaders intelligents. Mahmoud Abbas est une marionnette. Ahmad a cessé de rêver. On reste, mais ici, on n'a pas de futur. Plus radical encore, Loï, un joueur de oud, talentueux, qui veut vivre, manger, boire, jouer de la musique, s'amuser, étudier, rêve, lui, d'une terre libérée, du fleuve à la mer, et de revenir à ce qui existait avant le mandat britannique. Né au moment de la signature des accords d'Oslo, écrit Cécile Lemoine, Ahmad et Loï sont représentatifs de cette génération qui a cessé de croire en la solution à deux États.
Et à quoi rêvent les jeunes Américains de la génération Kirk?
Sa mort m'a dévastée. Étudiant à Baruch College, une université locale, Michael Giannino, un jeune catholique de 25 ans, pleure la mort de Charlie Kirk. Avant de découvrir Charlie, je me sentais isolée. Je me taisais de peur d'être jugée ou maltraitée. Mais au fur et à mesure que je me suis intéressée à lui, je suis sortie de mon silence. Des propos recueillis par Alexis Buisson, correspondant de la Croix à New York, et que je découvre dans l'édition de ce lundi. C'est sur la plateforme de vidéo TikTok, très prisée de la génération Z, que David Zareba, un jeune lycéen enthousiaste, a lui découvert Charlie Kirk. Il m'a montré qu'on pouvait assumer de croire en la famille, Dieu, la masculinité, la morale, dans un monde où ces valeurs sont vues comme folles. Comme de nombreux autres conservateurs, Michael et David rêvent de reprendre le flambeau de Charlie Kirk.
Et à quoi rêve Natalia Kuzmenko, une jeune Ukrainienne de 30 ans?
De continuer à ouvrir chaque jour sa librairie en plein centre de Kiev, et ce, en dépit du conflit et de l'incertitude économique. Un pari un peu fou, mais pour elle, l'important, c'est de continuer à résister à l'envahisseur de quelque manière que ce soit. C'est dans le magazine La Vie que vous lirez cette semaine l'histoire de cette jeune femme dont la vie a basculé en avril 2022. Au premier jour de l'invasion russe, cette jeune diplômée en littérature ukrainienne s'engage comme soldate. Elle restera sur le front 1 an et 7 mois. Aujourd'hui, elle a rangé son treillis pour ouvrir une librairie. Mais son objectif reste le même, résister. Le jour se lève sur Kiev. Depuis le début de l'été, les attaques de drones et de missiles russes se sont intensifiées. Natalia se faufile dans les couloirs du métro pour rejoindre sa librairie. Un véritable cabinet de curiosité où s'entassent minutieusement des livres de reporters ukrainiens, ceux qui couvrent l'actualité depuis la révolution de Maïdan. Sur les étagères, on trouve aussi des œuvres de littérature, ukrainienne surtout, des ouvrages de mode, d'architecture, de cinéma. Des livres choisis pour détruire la propagande russe encore très présente en Ukraine. C'est un devoir, je dois lutter contre l'envahisseur par mes choix de livres. Après avoir servi dans l'armée, je ne pouvais pas retourner à la vie civile sans continuer à m'engager pour l'Ukraine. C'est une sorte de soft power. Après le front, des livres pour résister, un très beau papier de Paul Boyer, notre confrère de La Vie.
Et à quoi rêvent les sacristines et sacristains, ces acteurs méconnus de la sécurité des églises?
Le soir, avant de fermer l'église, je fais ma petite tournée à la lumière de mon téléphone. Je vérifie qu'il n'y ait personne et je marche jusqu'au fond, car je ne verrais pas de loin si quelqu'un se tenait derrière un pilier. On me demande souvent si je n'ai pas peur d'être dans l'église toute seule, dans le noir. À raison, car je suis d'un naturel plutôt froussard. Mais quand même, je m'occupe de son église. Alors, je fais confiance au Seigneur. À 71 ans, Annick Lemonnier, qui habite juste en face de l'église Notre-Dame de Vire, dans le Calvados, est un peu la gardienne de son église. Annick est sacristine. Matin et soir, elle traverse la paisible place nationale et ouvre les portes de bois du grand édifice gothique en granit. Annick vérifie aussi qu'il ne manque pas de cierges votifs. Parfois, elle ramasse un mouchoir sale ou un parapluie oublié. Et puis, il y a un an et demi, un dimanche matin, sa petite tournée l'amène jusqu'au tabernacle fracturé, vidé de ses 3 ciboires emplis d'hosties consacrées. Les sacristains, c'est les sacristines, ces acteurs méconnus de la sécurité des églises, un très joli papier de Flore Pierson, notre consœur de la vie, papier qui ouvre le grand dossier de cette semaine. Vandalisme, incendie, profanation d'églises en France. Y a-t-il vraiment plus de dégradation? Quelle est l'ampleur du phénomène? Comment touche-t-il les communautés locales? Je vous renvoie à la lecture du magazine La Vie. Et enfin, dans La Croix de ce mercredi, vous lirez comment en Syrie, 10 mois après la fin de la guerre, les villages chrétiens de la région de Jis al-Shogour rouvrent leur église. 270 familles y sont déjà revenues, malgré des infrastructures détruites et des services de base absents. Chacun ici veut croire qu'un avenir est possible. Pour le père Loué, un franciscain qui n'a jamais quitté les lieux, il n'y a pas d'autre voie que le dialogue et l'acceptation de l'autre pour bâtir une identité syrienne unique, une espérance, nous l'espérons, qui par-delà les frontières rejoindra peut-être un jour le rêve d'Ali.